Bonsoir. Finalement, on a beaucoup parlé, on continue de parler beaucoup d'Europe dans cette campagne. C'est finalement l'un des principaux points de clivage. Vous en souvenez, dimanche soir, quelque part, un Français sur deux, un électeur sur deux a dit non à l'Europe au travers des différents postulants. Alors au final, qu'a-t-on donc pour le second tour? Eh bien, deux candidats que tout oppose. L'un arbore des drapeaux européens quand l'autre les fait retirer. Emmanuel Macron veut approfondir la zone euro, relancer l'Europe. Marine Le Pen, elle veut quitter l'Union européenne, quitter la zone euro, renégocier les traités. Alors finalement, au travers de ce choix, est-ce qu'on va assister à un référendum pour ou contre l'Europe? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, les décodeurs de l'écho qui sont là donc pour commenter l'actualité et l'actualité économique tous les soirs. On va en parler avec Thomas Anke. Thomas Anke, c'est le correspondant du grand quotidien allemand des finances, le Handelsblatt. Avec nous également un chef d'entreprise franco-néerlandais, hein, c'est Hendrik Klinkert, un partenaire chez Vacor, une société de conseil pour les entreprises dans les domaines de la finance, de l'organisation, du management. Il a dirigé à ABN AMRO pendant 15 ans à Paris. Emmanuel Le Chypre est avec nous, éditorialiste économique à BFM Business. Anne-Sylvaine Chassaniquel est le chef du bureau du Financial Times à Paris, autre grande institution également dans la presse financière. Et puis Jean-Luc Sauron qui nous dit régulièrement « Faites l'Europe, pas la guerre hein, », il est professeur de droit européen à Paris Dauphine. Tiens, justement, les deux représentants des deux grands quotidiens financiers que vous êtes, les médias étrangers, ils se sont passionnés donc hein, pour l'élection française, ils continuent évidemment de se passionner. 48 heures après le scrutin, qu'est-ce qu'on dit? À quoi on pense justement? Tout n'est pas joué, bien sûr. Thomas Anke.
Non, évidemment pas. Le deuxième tour reste à gagner pour Macron ou pour Le Pen. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'était dans la campagne de Macron, on a souvent dit qu'il se décide pour rien, il lit tout à tout le monde. Ce que tout le monde doit quand même reconnaître, c'est qu'il a fait dès le début une campagne pro-européenne. C'était très très clair dès le début. Il a dit on est pour l'Europe, on aime l'Europe, on veut même plus d'Europe. Et donc là, il passe le premier tour en première position. Donc ça veut dire que tout ce que nous ont dit nos leaders politiques depuis des années, que l'Europe, personne n'aime l'Europe, que l'Europe est mal positionnée, là, il y a une décision des Français qui est pour moi très très claire. Donc celui qui s'est positionné en pro-européen gagne au moins le premier
reste
tour.
À peut-être, savoir peut-être si c'était l'élection. La principale. Oui, reste à savoir si c'était la principale raison pour laquelle les électeurs, les électrices de Macron ont voté justement pour l'ancien ministre Anne-Sylvaine Chassagny.
Je serais moins enthousiaste. Ouais. Je crois que le scrutin est pas du tout aussi clair que ça justement. Je crois que la position sur l'Europe de Emmanuel Macron est assez minoritaire en fait parce qu'elle est très pro-européenne. C'est vrai qu'on peut on peut dire que ça a été très très clair sa position sur l'Europe, très pro-européenne, très pro l'intégration. Mais c'est pas une position, je pense, qui est très majoritaire en France. Et au contraire, ce qui est inquiétant et ce qui inquiète aussi les capitales européennes, en tout cas nos lecteurs, c'est qu'en effet, il y a une forte poussée de l'électorat vers des candidats qui étaient quand même anti-européens. Une grosse part, presque une majorité des électeurs
plus
français.
Plus de 50% au moins ont dit non donc à l'Europe au travers de Dupont-Aignan, de Mélenchon, de Marine Le Pen, voilà. Et puis tous les petits candidats d'extrême gauche un peu éparpillés ou plus ou moins donc sérieux. Voilà.
Et on sait que le deuxième tour sera un vote par défaut, donc il y a quand même une élection en demi-teinte.
En attendant, c'était le soulagement quand même sur les marchés
c'est le
hier.
Soulagement
on l'a vu,
des
plus 4% à Paris et puis ailleurs aussi. Bon. Ouais. Hausse réduite aujourd'hui, plus 0,2%. Oui. Dû à quoi ce soulagement?
Qui est lié en fait à la soulagement que finalement les sondages étaient corrects. Ils avaient prévu l'élection de manière correcte. Donc il y a une espèce de soulagement dans le. On peut faire confiance aux chiffres, aux sondages. Et puis quand même la menace d'un Jean-Luc Mélenchon et d'une Marine Le Pen au deuxième tour qui était montée en puissance dans les dernières semaines et qui là aurait été un scénario assez catastrophe pour l'Union européenne puisque on aurait pu même imaginer une certaine panique sur les marchés dès lundi. C'était des scénarios anticipés.
Vous, le chef d'entreprise franco-néerlandais Hendrik Klinkert, c'est un test crucial en Europe, cette élection française qui n'est pas terminée. Bien sûr, il y a un second tour, ne l'oublions pas.
Moi, je crains le second tour. Quand je vois la position de M. Mélenchon qui n'est pas claire, il y a quand même les extrêmes qui se rejoignent. Et donc, je crains que la victoire de Emmanuel Macron, ce sera une victoire... plus de l'ordre de 45-55%.
On ne va pas commencer à faire des pronostics, ouais. Bien sûr. Mais enfin, ouais. Vous avez l'impression que c'est un choix quand même qui détermine l'avenir du continent, l'avenir de l'Europe.
Oui. Mais les Pays-Bas, tous les partis politiques aux Pays-Bas sont globalement pro-européens, sauf le parti de Geert Wilders, PVV, qui est carrément anti-Europe. Donc les Pays-Bas, je vois mes amis, etc., c'était vraiment un souci de savoir est-ce que la France va basculer dans un pays anti-européen ou pas. Et donc, effectivement, il y a eu ce soulagement et ils espèrent qu'effectivement, ça sera confirmé au deuxième tour.
Jean-Luc Sauron, donc c'est Anne-Sylvaine Chassagny qui rappelait justement que 50% des électeurs, dimanche, ont dit non à l'Europe, à leur façon. Le bloc europhobe pèse assez lourd quand même en France. Hein. On l'explique comment ?
D'abord, il pèse toujours aussi lourd, hein, parce que Maastricht, le traité...
92.
Hein, 92, ça a été un peu moins de 52% contre un peu plus de 49.
Puis donc, le référendum déjà, de 2005.
Et le référendum 2005. Donc, je veux dire, il y a quand même une constance de très grande inquiétude des Français par rapport à l'Europe.
Donc ça, c'est pas nouveau, bien sûr.
Non, c'est pas nouveau. Mais personnellement, et vous l'avez déjà entendu le dire, moi, je suis fasciné que le second tour, en partie, va jouer sur l'Europe. C'est-à-dire sur une thématique, parce que moi, comme universitaire, lorsque j'essaie de proposer des livres sur l'Europe, on me dit, mais ça ne se vend pas, ça n'intéresse personne. Je dis ça, un petit appel du pied aux éditeurs. Non, mais, bien entre mis à part, il y a évidemment quelque chose de très, très important sur, si vous faites cette émission ce soir, si vous sentez bien que, et je crois que, ceux qui nous voient, nous écoutent, il faut qu'ils prennent conscience que la France a un poids très particulier en Europe. Ça aurait été catastrophique que nos amis néerlandais commencent à allumer la mèche. Parce qu'en 2005, ce sont les Français qui ont commencé à allumer la mèche et les néerlandais qui ont emboîté. Donc il y a eu deux états.
Toujours après, oui.
Ouais, toujours après. Ouais. Et donc, et en Europe, nous sommes beaucoup plus proches que de ce qu'on vient de dire de nos voisins. Et je pense vraiment que 2005, ça a coûté la place de la France en Europe. L'influence de la France en Europe a pris un coup sur la tête. Là, franchement, tout choix... il faut se rendre compte simplement, chacun vote ce qu'il veut, mais les conséquences du vote ne s'arrêteront pas à nos frontières. Quoi. C'est pas le nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière. Les conséquences du vote français du 7 mai, je dis pas que c'est si la France, quand la France s'éveillera, le monde tremblera, mais c'est un peu ça quand même.
Mm-hmm. Alors, Thomas Sanke du Handelsblatt et Emmanuel Le Chypre.
Sur les 50% des Français qui ont voté contre l'Europe, moi je vois pas tout à fait comme ça. Je l'ai écrit, je l'ai dit moi-même qu'il y a un risque de 40 à 50% des Français vont voter eurosceptiques. Mais il faut quand même voir de la manière dont et Mélenchon et Le Pen ont infléchi leur discours. Mélenchon qui a dit, mes amis, il n'y a pas de risque, je vais pas sortir de l'Europe parce que je suis sûr, je vais négocier tellement fort avec les Allemands qu'on va rester dans l'Europe. Et Le Pen qui a dit, Français, cette décision sur l'Europe sera votre décision. Je ferai rien sur votre avis. Donc, ils ont très bien remarqué que l'euro et l'Union européenne sont et restent les Français restent très attachés à cela. 70%
plus de 70% des Français veulent garder l'euro opposés à la sortie de l'Union européenne. Voilà.
Et pour moi, c'est la raison la plus fondamentale pourquoi Le Pen ne peut pas gagner cette élection. À moins qu'elle infléchisse encore davantage son discours. Elle dit que je vais plus du tout rester l'Europe. Mais à ce moment-là, tout son discours anti-globalisation s'écroule parce que elle dit quand même bon, je suis anti-globalisation. Et le visage de la globalisation en Europe, c'est la dictature de Bruxelles. Donc, elle peut difficilement changer ce discours-là sans qu'il reste plus rien de son discours anti-globalisation.
Emmanuel Le Chypre.
Il y a quand même un constat qui est partagé par quasiment tous les candidats. C'est que dans sa forme actuelle, dans sa configuration actuelle, l'Europe fonctionne pas très bien. Hein. Et donc, effectivement, là, quand vous considérez que finalement on est au milieu du gué, c'est-à-dire qu'en gros on a quitté notre ancienne rive des États-nations et que vous regardez la rive qui serait la rive d'une Europe plus intégrée, vous avez deux choix quand vous êtes au milieu du gué. C'est-à-dire que soit vous faites le choix que propose le Front National, qui est de dire bah, retrouvons notre souveraineté puisqu'il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. D'ailleurs, au passage, le débat sur le retour des marges de manœuvre nationales est un débat commode qui évite de nous interroger sur nos propres défaillances, sur nos propres faiblesses, parce que c'est facile de dire que en fait la situation serait bien meilleure si nous disposions des marges de manœuvre de notre politique économique. Moi, j'ai même tendance à penser que si on les avait eues tout seul depuis 15 ans, la situation serait peut-être même pire que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est un débat commode. Donc là, il y a le débat. On revient sur la rive où on était avant, qui est la proposition finalement Front National, Dupont-Aignan, etc. Et puis, il y a ceux qui vous proposent bah, d'essayer de passer quand même sur l'autre rive. C'est pour ça que les économistes, les prix Nobel, tout ça, sont un peu récupérés. Parce que quelqu'un comme Joseph Stiglitz, par exemple, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ok, ça fonctionne mal. Et le problème, c'est que lui, il ne dit pas qu'il faut abandonner l'euro. Il dit au contraire qu'il faut... approfondir, qu'il faut aller. Alors après, on peut esquisser les différentes propositions.
On va les esquisser. D'ailleurs, Macron
et lui, Emmanuel Macron, il est typiquement dans cette mouvance qui consiste à dire non. Au contraire, il faut aller plus loin. Mais ce que tout le monde a bien compris, c'est que rester au milieu du gué, ça ne sera pas tenable très longtemps. Si on ne va pas vers plus d'intégration, on finira forcément par revenir à des États plus indépendants et maîtres de leur destin qu'aujourd'hui.
Alors Anne-Sylvaine Chassagny, oui, du Financial Times, et Jean-Luc Sauron.
Oui, je voulais réagir. Bien évidemment, les Français sont attachés à l'euro et je pense que vous avez tout à fait raison. C'est un facteur très limitant pour Marine Le Pen au second tour. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est tout à fait ça. C'est qu'on est dans la nuance. On est soit dans un retour vers la souveraineté, une plus grande souveraineté nationale. Et ça, clairement, c'est quand même la vision majoritaire, je pense, en France. Ouais. C'est qu'on veut plus de souveraineté. C'est quand même, à travers Jean-Luc Mélenchon, on le voit également, mais à travers d'autres candidats, même avec François Fillon. Donc il y a quand même, je pense que cette vision qu'il faut aller vers plus d'intégration que représente Emmanuel Macron, elle n'est pas majoritaire. Et c'est difficile à faire passer cette idée qu'il faut plus d'Europe, qu'il faut intégrer la zone euro, avoir un gouvernement, etc.
Ouais, d'autant plus, Jean-Luc Sauron, comme le rappelait Emmanuel Le Chypre, et puis peut-être Anne-Sylvaine aussi, c'est vrai que l'Europe ne marche pas toujours bien, et on a parallèlement aussi des gouvernements français qui se sont succédés depuis des années, qui quelque part disent « Attendez, c'est pas de notre faute, c'est la faute de Bruxelles. Ils n'assument pas leurs responsabilités, ils en font porter la responsabilité sur Bruxelles. » Donc tout ça, quelque part, infuse dans la tête des électeurs et des électrices.
Il est évident, par exemple, que les Britanniques, dans le Brexit, ils ont tiré la conséquence logique. Leurs parlementaires, leur gouvernement leur disaient « Moi, j'aimerais faire ça, mais Bruxelles m'empêche.
Ben » voilà.
Donc la population britannique a dit « Attends, on va vous libérer du poids bruxellois, ouais. On dégage Bruxelles. Ouais. » Et le drame de notre campagne, c'est que il faut le dire et le répéter, le Brexit n'a pas commencé. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne a fait un vote en juin prochain. En juin dernier, merci, c'est l'âge. Heureusement qu'il est là.
Quand on en refera.
Mais ce qui est intéressant,
il y a des élections.
Ce qui est vrai, c'est que, justement, Theresa May, elle a avancé les élections à juin prochain.
Oui.
Voilà, j'y suis, j'y viens. Voilà. Merci beaucoup. Parce que si elle avait fait les élections à date prévue en 2020, là, le Brexit aurait commencé à donner ses conséquences, à mon sens, à mon avis, négatives. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et je renvoie à des ouvrages exceptionnels, comme par exemple le mien, il y a une solution, mais qui est un débat, non, mais c'est une boutade, il y a un débat aujourd'hui qui est déjà pris en compte par l'actuelle formation du Conseil européen, c'est quand même l'Europe différenciée. C'est-à-dire qu'on ne jette pas, c'est un système intermédiaire entre les deux faces, entre les deux rives. Il y a une île au milieu des deux rives qui est solide, qui est l'Union européenne comme cadre général et la possibilité de faire des avancées plus rapides avec ceux qui veulent et qui acceptent d'en payer le prix. Troisièmement, je trouve franchement que il faut pas opposer les souverainetés nationales et européennes. La souveraineté nationale et la souveraineté européenne, elles se renforcent mutuellement, elles se consolident mutuellement. Mm-hmm. Quand les Britanniques disent « on a récupéré notre souveraineté sur nos lois », c'est à pleurer, parce qu'ils devront, de toute façon, aligner leur législation sur les législations européennes s'ils veulent vendre en Europe.
En Europe, bien sûr.
Et donc, ils participeront même pas à les législations qu'ils vont appliquer.
Hendrik Klinkert.
Moi, je pense qu'il y a le principe de subsidiarité et qui n'est pas bien appliqué. Parce que le principe de subsidiarité veut dire
Ce qu'un pays peut décider seul, parce que ça n'a pas d'impact sur les autres pays, c'est au pays de le faire. Et on a trop voulu passer tout ça vers Bruxelles, etc. Donc, bon, vous allez se parler sous votre contrôle, mais je pense que si on appliquait d'une meilleure façon ce principe de solidarité, les peuples se retrouveront. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez les multinationales qui viennent à Bruxelles, qui disent, voilà, une norme, les fonctionnaires disent, ah, super, cette norme pour notre grand marché. Ils l'appliquent. Puis après, vous avez la petite PME en France qui est confrontée à des investissements lourds, parce que sinon, il ne peut même plus vendre dans son propre pays. Donc, il faut laisser à chaque pays le choix de définir ses normes.
Emmanuel, le chef.
Je crois que Jean-Luc, il essaie de nous vendre. L'Europe, c'est formidable.
Il essaie de nous vendre son livre, surtout.
Non, mais je crois que c'est un des problèmes du débat, c'est que les europhiles, entre guillemets, ont beaucoup de mal à reconnaître que l'Europe dysfonctionne. Voilà. Et qu'aujourd'hui, Bruxelles, finalement, ce sont des fonctionnaires qui ont été abandonnés par les dirigeants politiques et qui se retrouvent seuls face à des lobbies qui finalement leur imposent des tas de normes, etc. Et donc, je pense qu'il faut avoir le courage de reconnaître que on n'a plus de pouvoir politique aujourd'hui européen. Et si on n'avait pas dans la discussion ce côté un peu idéologique de ceux qui nous disent tout le temps « l'Europe c'est formidable », etc. et les autres qui nous disent « l'Europe c'est nul », etc. Je pense qu'on arriverait plus à se parler.
Thomas Sanker, Land of Flats.
Sur la question de la subsidiarité, mes compatriotes allemands, on adore la subsidiarité. Oui. Personne ne sait ce que ça veut dire, mais bon, oui. On adore. Il y a une vague idée de ces traités.
Mais vous avez l'habitude avec Hollander.
Au niveau le plus bas. On trouve ça bien.
Oui, le plus
mais,
proche.
Mais je crois que c'est pas vraiment le grand problème. Le grand problème, c'est pas que Bruxelles traite trop des petites questions qui pourraient être traitées au niveau national ou même local ou régional. Le vrai problème, c'est que là où ça coince, où les gens sont dérangés, c'est évidemment dans les grandes questions de la politique budgétaire, la politique financière, la politique économique, qui ou bien les gens pensent que c'est trop contraignant, il y a trop de discipline de Bruxelles, ou parfois, en Allemagne, on pense qu'il n'y a pas suffisamment de discipline. Donc, c'est là où se pose le vrai problème. Et aussi, par exemple, la défense, c'est effectivement une grande question politique qui devrait être traitée au niveau européen, mais on n'y arrive pas parce qu'il y a des questions de politique industrielle qui se posent. On craint qu'il y aura des pertes d'emplois ou bien parce que les stratégies nationales ne sont pas compatibles.
Donc, on a l'impression qu'on a parler d'Europe avec les bons termes durant la campagne, ou encore une fois, on a cherché à caricaturer Jean-Luc Sauron.
Ah, mais c'est une...
Parce que les questions qu'il a posées Thomas Sanke sont parfaites, hein, justement, sont des thèmes, mais on ne les a pas beaucoup entendus durant la campagne.
Non, mais tout à fait, mais je pense qu'il faut se saisir des 15 jours pour débattre vraiment de ces difficultés. Il y a un contexte géopolitique. Très souvent, on parle ici de Vladimir Poutine, de Donald Trump, qui est un peu changeant, on va dire ça comme ça, de nos amis chinois, car ce sont nos amis. Donc, il y a quand même un monde qui est extrêmement instable et dangereux. Et alors, ce serait ce moment-là que les Européens choisiraient pour disparaître. Mais, Emmanuel, la conséquence des disparitions de l'Europe, c'est la guerre. Et c'est pas uniquement un rappel douteux à mon livre. C'est que vraiment, le vide va créer le chaos. Et donc, c'est drôle parce que quand j'entends Emmanuel parler, on a l'impression qu'il y aurait une alternative à l'Europe. Mais il n'y a pas d'alternative à l'Europe. Je vais prendre un exemple économique, cher Emmanuel. C'est la bagarre avec le GAFA. Google, Apple, Facebook et Amazon. C'est la France toute seule, drapée dans sa pureté, qui pourrait dire au GAFA, c'est pas bon. Seule la Commission, seule Mme Vestager, commissaire danoise à la concurrence, peut dire aux Américains, ce marché de 500 millions, qui vous est vital, et sur les data protection, sur les protections des données, il y a un enjeu, pas que sociétal, économique majeur. Et il y a un débat mondial entre qui
mais
entre les Américains et les Européens, pas les Français.
Vous voyez bien que là, notre commissaire européenne est héroïque, mais reconnaissez qu'elle est toute seule.
La Cour de justice.
En race campagne. La meilleure preuve, c'est que ses prédécesseurs, qui étaient quand même relativement nuls, n'ont rien fait. Vous voyez que ça dépend vraiment, de qui vous mettez, de quelques personnes. Donc moi, je suis d'accord sur certains points.
On va revenir sur la campagne française après.
On ne peut pas se contenter de dire que il y a pas. Moi, je suis d'accord de dire qu'il y a pas d'alternative, mais il y a quand même aujourd'hui une autre façon. Et il y a des tas de choses qu'on a mal fait. Le délire hyper libéral des années 90 de cette Europe ouverte à tous les vents, dont on paye aujourd'hui les conséquences. Parce que ce qu'on paye aujourd'hui, c'est toutes les conneries qu'on a fait dans les années 90. Prenez sur tous les sujets. Le climat, la finance, l'Europe. Les années 80-90 ont produit des résultats catastrophiques qu'on a commencé à corriger. On en paye encore le prix aujourd'hui. L'Europe, finalement, quand vous regardez l'Europe post-crise financière, elle est bien plus solide et bien plus entremêlée que l'Europe d'avant. Donc, on progresse, en fait. On progresse. Mais il y a eu quand même... C'était un peu ce que disait Hubert Védrine. C'est-à-dire que l'Europe s'est comportée un peu comme l'idiot du village global, à vouloir être plus libérale que les pays libéraux. Un peu naïve, un peu un peu idéologue.
Anne-Sylvaine Chassagny, le FT.
Pour revenir en fait à la question de la campagne et la question de l'Europe est bien abordée ou pas. Finalement, ces deux candidats que nous avons au second tour, je ne sais pas s'ils vont permettre d'avoir une discussion très élaborée sur l'Europe parce qu'ils ont
Tous les opposent.
Ils ont des positions très. Et finalement, la position d'Emmanuel Macron va s'adapter à celle de. va être un contre-pied à celle de Marine Le Pen qui est très caricaturalisée. Donc j'ai bien peur qu'on ne rentre pas dans les subtilités de ce qu'il faudrait vraiment modifier, à moins que Emmanuel Macron
On y reviendra dans le détail sur les propositions d'ici 2-3 minutes, mais c'est vrai, on a d'un côté donc Marine Le Pen qui veut sortir de l'Union Européenne, qui veut abandonner la monnaie européenne au nom de la souveraineté nationale. Elle veut refuser les traités de libre-échange, renégocier les traités européens, sécuriser les dépôts et l'épargne des Français en abrogeant la directive européenne sur l'union bancaire. En face, on a Emmanuel Macron qui, lui, veut réformer la France et relancer l'Europe, parce qu'il considère que va de pair, veut approfondir la zone euro, plus d'intégration dans un sens fédéral, création d'un ministère de l'économie et des finances commun aux 19 pays de la zone euro, création d'un parlement de la zone euro avec des pouvoirs budgétaires, création d'un fonds monétaire européen. Voilà, je simplifie, mais voilà quelques-unes des mesures. Juste avant qu'on voit le détail des mesures, Emmanuel Le Chypre, du côté de la Banque Centrale Européenne, on expliquait que la présence d'Emmanuel Macron au deuxième tour apaise les craintes de la BCE, ce qui pourrait l'amener à modifier son discours en juin à la Banque Centrale Européenne. Dans quelle direction, pour faire quoi, pour dire quoi?
Ça apaise les craintes de la BCE par rapport à un scénario qui était celui que Sylvain a évoqué sur Mélenchon Le Pen, où vous avez des gens qui sont prêts à faire à peu près n'importe quoi sur le plan monétaire et sur le plan budgétaire. Dès l'instant où vous avez comme candidat favori Emmanuel Macron, qui est quelqu'un qui est plutôt raisonnable, allez, on va le dire, sur le plan des finances publiques et sur le plan monétaire, il est sûr que pour la Banque Centrale Européenne, c'est pas du tout le même scénario qu'avec une Marine Le Pen, alors sauf si c'est Marine Le Pen qui gagne, mais qui veut reprendre l'indépendance à la Banque Centrale, faire tourner la planche à billets, à gogo, etc.
Juste un mot avant qu'on se retrouve dans un instant. Est-ce que le duel Macron-Le Pen, ça va être quelque part un référendum pour ou contre l'Europe? Juste un mot, Jean-Luc Sauron, vous qui connaissez tellement bien les coulisses de l'Europe. Jean-Claude Juncker, est-ce qu'il n'a pas failli à son obligation de neutralité en souhaitant bonne chance à Emmanuel Macron?
Alors, je dirais objectivement oui. Cela dit, je comprends tout à fait que le président de la Commission souhaite plutôt un candidat pro-européen qu'une candidate anti-européenne. C'est un sursaut pour garder son emploi. Mais ça se discute vraiment, parce que je pense, et ça a fait l'objet de beaucoup de contestations, que moi je trouve que ce serait bien que chacun des débats politiques nationaux, les autres dirigeants interviennent aussi un peu. Parce que ça casserait cette idée qu'a Emmanuel, que nous avons chacun un destin isolé. Je reviens là-dessus. En réalité, c'est 60 ans de vie commune. Il y a eu de la vaisselle cassée, il y a eu des crises, mais je veux dire, c'est aujourd'hui indémêlable. C'est indémêlable.
Bon, on continue dans un instant avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business, entre les deux tours. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Tiens, dites-moi les décodeurs de l'écho ce que vous en pensez quand même. Parce que le second tour, hein, donc Macron-Le Pen, deux candidats aux visions diamétralement opposées à la fois sur l'économie et spécialement d'Europe, puisqu'on parle ce soir de l'Europe. Hein, je le disais, l'un arbore des drapeaux européens, l'autre les fait retirer quand elle passe à la télé. Choix binaire, deux philosophies quelque part. Et sur la scène européenne, finalement, on a le choix entre peut-être une continuité et un profond changement. Ça va être ça, c'est ça l'alternative. Thomas Hanke, correspondant du grand quotidien financier allemand, le Handelsblatt.
Justement, Macron, il a dit qu'il ne veut pas la continuité, il a dit qu'il veut approfondir l'Europe.
Alors, il faudra expliquer comment, justement.
Voilà, il a donné quelques propositions, budget pour la zone euro, un budget substantiel d'ailleurs, avec plusieurs dizaines, voire centaines de milliards d'euros. Donc, pour investir.
Un plan d'investissement européen beaucoup plus ambitieux que le plan Juncker.
Oui. Et donc un ministre de l'économie et des finances pour la zone euro
pour
qui aurait des vraies compétences qui seraient plus qu'un chef de l'Eurogroupe. Seulement, moi, je crains que ça ne parle pas vraiment aux électeurs. Ça reste tellement compliqué.
Est-ce que ça ne va pas les braquer même, non?
Pas les braquer, je crois pas.
De se dire qu'il y aura un gars au-dessus qui va s'occuper encore plus de leurs affaires.
Il faudrait quand même expliquer en quoi ça fait fonctionner mieux la zone euro. Et je crois que la grande crainte aujourd'hui, c'est quand même que beaucoup de gens voient qu'il y a eu cette dérive ultra-libérale, qu'on a complètement oublié qu'à en marge de la liberté de mouvement pour les capitaux, les biens et services qui est nécessaire, il faudrait aussi peut-être faire quelque chose pour que les travailleurs puissent bouger à l'intérieur de l'Europe et de la zone euro de manière plus facile. Mais on n'a rien fait pour jumeler d'une certaine manière les systèmes sociaux. Donc nous qui sommes, qui suis travailleur détaché, il y a 60 ans que l'Europe existe, et on n'a rien fait parce que ça n'a jamais entraîné
l'effet. L'organisation du chômage en Europe. Donc,
Macron veut une harmonisation sociale européenne. Donc, formation, santé, chômage, SMIC. En ce qui concerne les travailleurs détachés, lui, pour l'instant, apparemment, il ne veut pas forcément y toucher parce qu'il rappelle qu'on oublie de dire à chaque fois qu'il y a près de 300 000 Français qui sont travailleurs détachés. En face, Marine Le Pen, elle veut supprimer la directive détachement des travailleurs. Voilà, donc, en ce qui concerne
l'appliquer, bien entendu.
Hein.
Exactement. Oui.
Thomas, allez-y.
Déjà, une forme d'assurance chômage européenne qui peut pas remplacer tous les systèmes qui sont en place parce que ce serait trop lourd tout de suite, mais qui donne peut-être un petit supplément ou qui serait quelque chose pour les pays les plus pauvres qui n'arrivent plus à financer leur système parce qu'ils sont en crise. Ce serait déjà l'amorce d'une Europe sociale qui est visible. Et je crois qu'il nous faut ça. Et pas seulement améliorer le fonctionnement technique de la zone euro.
J'en reviendrai vers vous tout à l'heure parce que je pense que du côté de l'Allemagne, ça peut-être un petit peu grincer.
Absolument.
Si Macron, justement, à sa façon, veut gérer, régler, finalement, faire avancer l'Union européenne face à une Angela Merkel. Mais bon, on en reparlera dans un instant. Anne-Sylvain Chassani, qui est la chef du bureau du Financial Times à Paris.
C'est un peu pour rebondir, je pense que c'est peut-être ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas, je pense que l'opinion publique et les électeurs français sont... C'est pas un message qui est très porteur chez les électeurs français. Quand même, on a une France qui souffre beaucoup. Hein. Alors Emmanuel Macron, c'est quand même l'emblème de la France qui va bien, qui n'a pas trop de problèmes et qui est confiante et qui voit l'avenir en rose. Mais on a quand même des électeurs qui doutent énormément du système de santé français, qui a l'impression que ce n'est plus l'égalité, ça marche pas bien pour eux.
Vous avez raison. Le divorce sur l'Europe auquel on assiste, finalement, il se traduit, il reflète peut-être la coupure, la fracture métropole France rurale que l'on voit en France.
Et donc un message sur l'Europe, harmonisation fiscale, sociale, augmenter l'intégration dans dans la zone euro, je pense que c'est faut énormément de pédagogie. C'est très compliqué à faire passer en ce moment, surtout avec une Marine Le Pen qui est dans des messages très simples, qui sont très efficaces au sein de cette catégorie de population qui est quand même en souffrance. Hein.
Quand elle dit on refuse les traités de libre-échange, quand elle dit on renégocie les traités européens, quand elle dit on quitte l'euro, le scénario, il y aura 6 mois de discussion avec l'Union européenne, dit Marine Le Pen, pour sortir de Schengen, de l'euro, avant d'organiser la tenue d'un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union. Jean-Luc Sauron, Emmanuel Schiff, ça parle ou pas, toutes ces annonces d'Emmanuel Macron, quand il dit un super ministre de l'économie et des finances au niveau des 19 pays de la zone euro, l'opinion publique, elle y est prête ou pas, franchement?
Non, mais c'est trop technique, je suis d'accord avec Thomas là-dessus. Mais je veux dire, prendre trois éléments de débat. Politique sociale européenne, enfin, nous savons tous ici que les 28 États de l'Union sont persuadés que leur système social est le meilleur. Donc c'est très compliqué à harmoniser, parce que les Allemands nous expliquent qu'ils sont formidables, que les médecins allemands sont formidables, qu'il ne faut même pas se faire soigner à l'étranger parce que c'est quand même dangereux, y compris en Europe. Donc je veux dire, il y a quand même une petite logique, il faut remettre ça d'aplomb. Il y a un travail de pédagogie qui est énorme à faire, c'est évident. Par exemple, on a opposé, on ne dit pas toujours, c'est l'Europe qui a cassé les services publics. Non, c'est pas l'Europe qui a cassé les services publics. L'Europe, et c'est technique, j'en parlerai pas, permet au gouvernement français de sauvegarder les services publics. Ce qu'il fait, c'est de pas dépenser l'argent public à tort et à travers. Hein? Mais ça, il faut en effet en parler. Il faut en débattre. C'est-à-dire que, et je finirai là-dessus, le problème majeur de l'Europe, c'est l'incurie des États nationaux. C'est-à-dire, toutes les boulettes que nous avons eues, il y a beaucoup d'États nationaux là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut réformer, avant de créer un Parlement, la zone euro. Mais déjà, redéfinissons peut-être les pouvoirs du Parlement national, qui doit être peut-être moins sur la norme et plus sur le contrôle budgétaire. Entouré de je ne vais pas faire de polémique, mais de collaborateurs de haut niveau. Il y a des staffs de spécialistes qui peuvent aider un parlementaire aujourd'hui. Mais je veux dire, la réforme a commencé, c'est la réforme
vous
de l'État
allusion,
national.
Vous faites évidemment à aucun ancien candidat
non.
Et qui a joué au premier tour.
Non, ça c'est pas bonjour.
Hendrik Klinkert, ancien patron d'ABN AMRO donc à Paris, est aujourd'hui à la tête de Vacor. Oui.
Moi, ce que j'ai trouvé très surprenant, c'est que tous les candidats ont parlé du général de Gaulle. C'est le pater familias de la France. Et quand Marine Le Pen dit que la France va retrouver sa souveraineté et qu'elle sera plus solide dans ce monde, non, parce que j'ai vu une émission sur la BBC où une des personnes pour le Brexit disait « Ah, c'est super, on est fort, etc. » Et son interlocuteur disait « Mais on n'est pas fort du tout. Pourquoi on était fort jusqu'à présent ?» Parce qu'elle parlait du Conseil de sécurité. Elle disait « Parce que vous aviez l'Union européenne derrière vous. » Et donc demain, la France souveraine, elle sera rien du tout. Elle sera rien du tout. Donc, parce qu'il n'y aura plus l'Europe derrière.
Emmanuel.
Non, mais je crois qu'effectivement, on est noyé sous les contresens historiques. C'est-à-dire que entendre que de se réclamer de De Gaulle et prétendre vouloir se replier sur soi-même, etc., c'est quand même un petit peu un contresens historique. Et ce qui va être compliqué pour Emmanuel Macron dans le débat qui va avoir lieu, parce que ça va être ça l'événement majeur des 15 prochains jours, c'est le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et on voit très bien que le piège pour Emmanuel Macron, c'est d'essayer d'utiliser sur la question européenne des arguments trop rationnels, des arguments trop haut de gamme. Honnêtement, tout ce qu'on a discuté sur un ministre, etc., ça ne parle absolument pas aux gens. Qu'est-ce que ça changera? Donc je pense qu'il en est conscient, parce que pour avoir discuté un peu avec ses équipes, etc., justement, ils sentent que c'est bien le piège dans lequel il ne faut pas qu'il tombe. C'est-à-dire le piège du technocrate qui défend l'Europe face à Marine Le Pen, qui protège le petit peuple, etc., parce que il sait qu'il a tout à perdre de ça. Donc il va falloir qu'il trouve des arguments qui vibrant un petit peu sur la construction européenne, sur le pouvoir d'achat, sur l'épargne, dire aux gens voilà attention si on sort de l'euro, voilà votre épargne est menacée, votre pouvoir d'achat, etc. Voilà, mais il faudra pas que ça s'élève à des niveaux plus élevés que ça.
Anne-Sylvaine Chassaigne, vous avez l'impression, au contraire, que Marine Le Pen quelque part, elle parle davantage aux Français et aux Françaises avec des choses peut-être plus concrète quand elle dit voilà, on va supprimer la directive détachement des travailleurs qui crée une concurrence déloyale inadmissible. C'est vrai qu'en effet, un certain nombre d'artisans, patrons de PME se disent ah bah oui, j'ai peut-être une mauvaise conscience. Je ne sais pas, enfin, je ne dis pas qu'elle a raison. Quand elle dit on va refuser la libéralisation du rail voulu par l'Union européenne, donc là, on imagine une déferlante de trains italiens, allemands, espagnols, je ne sais quoi. Quand elle dit il faut imposer la traçabilité totale de l'origine géographique du lieu de transformation des produits alimentaires. Elle parle concret, elle parle sécurité alimentaire. Donc, c'est deux méthodes différentes entre l'un et l'autre aussi.
C'est vrai qu'Emmanuel Macron risque d'être un peu trop technocrate, enfin trop technique, il a tendance à rentrer dans la technique. Marine Le Pen, on peut démonter, je pense que c'est aussi l'objectif dans ce débat pour Emmanuel Macron, c'est de démonter les arguments économiques. Je pense que ça, ce sera pas forcément difficile pour lui. En revanche, en effet, parler de la zone euro, d'un gouvernement, etc., je pense que ça, c'est pas porteur électoralement. Ce qui est porteur, et je crois que c'est dans son programme, termes, c'est de parler de défense, de sécurité, de collaboration au niveau du terrorisme.
En effet, créer un fonds européen de défense pour financer des équipements militaires communs.
Concret.
Tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait des GAFA, le professeur Sauron. Voilà, Macron dit il faut lutter contre l'optimisation fiscale des grands groupes de l'Internet, imposer les grands groupes de l'Internet sur leur chiffre d'affaires réalisé, ici, sur notre sol.
Et même il a, lorsqu'il était ministre de l'économie, il a eu une action assez positive, je trouve, sur notamment tout ce qui est la sidérurgie chinoise. Il a imposé des mesures anti-dumping qui pourraient...
C'est d'ailleurs dans son programme.
Ouais. Mais on pourrait dire que c'est du protectionnisme intelligent, je ne sais pas si on peut appeler ça. Mais c'est, comment dire, il a des arguments à avancer. Je pense qu'il faut il faut surtout pas qu'il rentre dans des considérations trop techniques.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut surtout pas qu'il se mette à défendre cette Europe qu'on a critiquée tout à l'heure, trop libérale. C'est ça. Il faut qu'il fasse comprendre aux Français que l'Europe c'est la meilleure protection possible pour eux.
Oui, alors justement, tiens, Thomas Anke du Handelsblatt, journaliste allemand, bien sûr, l'Allemagne, elle voulait Emmanuel Macron, c'était tout sauf Le Pen. Hein. Comment les volontés d'Emmanuel Macron de vouloir réformer la zone euro, au travers de toutes les mesures dont on a parlé, est-ce qu'elles vont être appréciées par l'Allemagne qui, quelque part, depuis 10 ans, gère l'Europe au jour le jour? Macron, est-ce qu'il ne disait pas qu'on a perdu une décennie, pile la période à laquelle est arrivée au pouvoir une certaine Angela Merkel en 2005. Ça va être bien apprécié en Allemagne, le fait que si jamais Emmanuel Macron est élu, justement, qu'il prenne les devants, qu'il prenne le pouvoir, quelque part.
Deux choses. D'abord, presque tout ce que propose Macron se trouve déjà dans le papier commun de Merkel et Hollande qu'ils ont présenté le mois de mai 2014, il me semble.
Merkel remet en jeu son pouvoir, élection.
Ça n'a jamais été réalisé. Et pourquoi? Parce que, parlons franchement, le gouvernement français a trouvé des moyens à contourner un peu les règles budgétaires de l'Europe. Et en même temps, le gouvernement allemand a commencé à dire, on va pas vous critiquer, mais si vous continuez à contourner les règles, nous, on va plus avancer. Donc c'est là. À ce moment-là, ça commence à se bloquer. Bon, tout le monde continue à dire la France et l'Allemagne sont les moteurs de l'Europe, mais en réalité, il ne se passe plus rien parce qu'il y a cette méfiance.
Alors ça, c'est le passé. Maintenant,
c'est le passé. Voilà. Et donc, si jamais Macron est élu et dit bon, d'un côté, je vais réduire de manière considérable et crédible le déficit budgétaire. Mais en même temps, je demande à vous, Allemands, à faire votre part. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'Allemagne, avec son excédent commercial, son excédent d'épargne, est aussi en infraction des règles européennes. Seulement, on n'ose plus tellement critiquer l'Allemagne. Et les Allemands eux-mêmes doivent comprendre, je crois, que c'est pas seulement quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est pas dans notre intérêt. Avoir un tel excédent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'épargne est exporté parce que on a pas suffisamment d'investissement chez nous. Donc ce serait dans notre intérêt à changer cela. Et donc si Merkel ou Scholz qui gagne les élections,
ça va être quoi la marge de manœuvre de l'Allemagne après
ils devront entrer dans le jeu parce que c'est aussi d'une certaine manière c'est la dernière possibilité qu'on a. Si Macron gagne les élections, c'est la dernière possibilité de construire une Europe qui sera plus constructive que celle qu'on a actuellement.
Un mot, Jean-Luc Sauron.
Un rapide comparatif. Donc Marine Le Pen se retire de tous les traités internationaux commerciaux. Ferme-toi des frontières si l'Europe ne négocie pas. Qu'est-ce qu'on a dans le programme d'Emmanuel Macron? C'est en effet essayer de mieux protéger les Français de la mondialisation. Et donc il propose quelque chose de négocier des compensations, des regards les traités internationaux. Mais si jamais il y a difficulté des compensations pour les secteurs défavorisés, il y a un procureur, le super procureur du commerce international qui veille à ce que nos partenaires suivent bien nos accords.
C'est ça.
Il y a des éléments. De régulation, d'organisation, mais je reviens, c'est obsessionnel, il ne faut pas oublier la responsabilité des gouvernements nationaux. En France, la PAC, on a des agriculteurs qui se suicident très souvent. Le revenu moyen d'un agriculteur italien, c'est 22 000 euros par an. Nos Français aimeraient bien gagner ça. C'est la même PAC Mais c'est pas les mêmes gouvernements.
Anne-Sylvain Chassaigny, juste un mot, quel que soit le gagnant donc dans 10 jours, les négociations autour du Brexit, justement, comment seront-elles menées?
Ah là là,
quel impact donc, les tabloïds anglais, ils souhaitent Marine Le Pen. Hein, Emmanuel Macron, lui, mènerait des négociations dures avec les Britanniques.
C'est vrai, et je pense qu'ils ont raison de penser ça, parce que en effet, Emmanuel Macron n'est pas du tout... je pense que c'est un négociateur qui sera assez dur dans les négociations. C'est un Européen convaincu. Il va essayer de trouver un front uni avec l'Allemagne. Il est très convaincu qu'il ne faut absolument pas laisser justement les populismes progresser en Europe. Donc ça, c'est vrai. Maintenant, si Marine Le Pen est élue, je pense que la question deviendra presque secondaire, je dirais même.
Quel que soit le cas, finalement, il y aura un bras de fer ou pas avec Bruxelles, compte tenu du poids de la France, que ce soit donc Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Allez, un mot très court, Thomas Sankov, avant qu'on se dise au revoir.
Un bras de fer sur quoi ?
Quelles que soient les raisons, dans toutes les discussions qui seront menées avec l'Union européenne, ça va être dur de toute façon.
Bien sûr.
Moi, je pense qu'il y a un élément fondamental, c'est que tout repose, le plan de Emmanuel Macron, qui est quand même donné gagnant dans les sondages, repose sur une crédibilité de la France sur les réformes. Or, la grande question, c'est est-ce qu'il va pouvoir faire les réformes qu'il a annoncées? Et ça, c'est quand même l'axiome de base. On est encore dans l'expectative.
Il reste 10 jours, bien entendu. Le second tour, ce n'est que le 7 mai. Donc, il y aura encore beaucoup de choses qui vont se faire. La campagne ne fait que commencer pour le second tour. Voilà, dossier économique donc à suivre sur BFM Business, les décodeurs de l'écho. Je remercie Thomas Sankov, qui est le correspondant du grand quotidien financier allemand Handelsblatt. Avec nous, un chef d'entreprise franco-néerlandais, Hendrik Klinkert, partenaire chez Vacor, Emmanuel Le Chip de BFM Business, Anne-Sylvaine Chassaigny, qui dirige le bureau du Financial Times donc à Paris, et Jean-Luc Sauron, qui nous dit « Faites l'Europe par la guerre ». Il est professeur de droit européen à Paris Dauphine. C'est fini pour les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.